Herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Lea
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Unter Freunden. Ich bin Lea und heute gibt es eine kleine Premiere im Podcast. Wir werden nämlich mit dem heutigen Gast zum ersten Mal eine Podcast-Folge auf einer Fremdsprache machen. Und zwar ist das Französisch. Unser Gast ist Herr Abdoulaye Seck von der Einsatzstelle Sekarouangi im Senegal. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß beim Zuhören und bonne écoute. Voilà, c'était la petite introduction du nouvel épisode pour préparer et accueillir l'audience à cette première, un épisode du podcast en français. Je suis Léa et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de parler avec Abdoulaye Seck, directeur et artiste de la structure d'accueil Sekarouangi à Dakar, au Sénégal. Bienvenue Abdoulaye.
Merci Léa. Content d'être avec toi.
Merci, merci beaucoup. Alors, je t'ai introduit en tant que directeur, artiste, mais je pense que tu es beaucoup plus. Tu es pédagogue, médiateur culturel et aussi un sage de la religion, je ne sais pas comment
oui,
dire.
Oui, effectivement, je suis artiste. Je suis traité en tant que fonctionnaire de classe exceptionnelle de l'éducation nationale. Je suis traité au ministère de l'éducation en tant que conseiller. Et aussi au niveau religieux, je suis issu d'une des plus grandes familles religieuses du Sénégal, de père comme de mère. Donc, mon père était imam, mes grands-pères, mes grands-parents. Souvent, on parle d'imam, mais l'imam, c'est celui qui est devant. Donc, quand je suis devant mes frères, quand je suis devant des gens plus cultivés, c'est eux qui se mettent devant, selon l'âge, selon la piété. Parce qu'un imam, c'est souvent, on le dit souvent, mais c'est difficile. Un imam ne ment pas, un imam ne fait pas l'adultère, un imam doit être un exemple. Et donc, il est choisi selon son intégrité, selon ses qualités. Donc, c'est souvent prétentieux de le dire, mais quand même, j'ai appris le Coran, j'ai été éduqué dans ses principes. Je peux diriger une prière, célébrer un mariage, prier pour les gens. Et je fais tout pour être parfait. Voilà, dans cette voie de perfection, voilà.
Ah, c'est très beau.
Donc, voilà, pédagogue, j'ai fait mes études en France, dans différentes pédagogies. Donc, depuis Freinet, Montessori, Waldorf, j'ai pratiquement pratiqué les courants pédagogiques pour voir lequel peut-être était mieux pour mon pays.
Ah, d'accord. Waouh, ça c'est très intéressant et je crois qu'il y a tellement de sujets à propos desquels on pourrait parler. Ok, très bien. Donc, si tu es d'accord, j'aimerais plonger tout directement dans ta biographie. Tu veux nous raconter un petit peu comment tu es né, comment était le pays à l'époque? Es-tu de Dakar déjà ou d'une autre ville?
Non, mon père est de Saint-Louis, et ma mère du Cayor, donc une région du Sénégal. Donc Saint-Louis, c'est une ville coloniale. Mon père lui-même, il a été dans l'armée française, mais aussi, il était de Saint-Louis, pêcheur, mais aussi imam, et tout le monde venait chez nous pour apprendre les sciences religieuses. Donc j'ai été éduqué dans ce bain, dans une famille où il y avait plus de 50 personnes qui chez nous. Et ma mère prenait donc une grande gamelle, par exemple un sac de 25 kilos de riz était mangé pour le repas de midi.
Wow.
Et donc les gens venaient de divers horizons, certains jouant de la musique, d'autres parlaient, d'autres étaient des magiciens. Donc j'ai vu toutes les expériences de personnes, d'adultes qui venaient donc chez nous apprendre. Et nous, parallèlement, on était très jeunes, ils nous racontaient plein de choses, ils nous apprenaient plein de choses. Mais la chose qui m'a beaucoup marqué, c'est ma grand-mère.
Ah bon?
Oui, parce que pendant les vacances ou quand j'étais plus jeune, j'étais avec ma grand-mère. Mm-hmm. Je l'aimais beaucoup. Elle m'amenait me promener donc, dans la campagne. Et elle me disait que, vous voyez, Abdoulaye, moi, à l'époque, je faisais de la teinture pour les nobles, pour les rois de la famille dont je suis issu. Je vais t'apprendre. Et on allait dans la campagne. Elle me disait, tu vois cette plante, tu connais son nom? Je ne connaissais pas. Elle me dit, voilà son nom de famille. Et très tôt, j'ai su distinguer les plantes médicinales, les plantes teintoriales, et puis mes oncles aussi, voir l'étoile du nord, voir les signes des oiseaux. Et donc j'ai été vraiment éduqué dans un milieu très spirituel, et ça m'a beaucoup marqué. Et jusqu'à présent, je suis capable de transmettre toutes ces choses, et c'est de là que je tiens mes connaissances par l'exemple de mes parents qui étaient vraiment très proches de la nature. Mon père, très proche de la mer, des étoiles et tout, et mes autres parents, très proches de la forêt, de la brousse, de la campagne. Distinguer les cris des animaux, voir les empreintes. Ah, c'était ça, vraiment. J'ai reçu une initiation spirituelle très dense.
Très dense. Et pas, comment dire, aussi de la nature, des sciences.
De la nature, parce que tout simplement, j'étais un enfant vraiment de la campagne. Je suis venu en ville pour les études. Mais sinon, entre la mer et la brousse. Donc, voilà. Donc, j'ai eu vraiment cette éducation qui m'a beaucoup marqué et que je ne regrette pas. Parce que jusqu'à présent, donc, les histoires des animaux, nos mythologies, dans un milieu de contes où chacun racontait des histoires. Mon père nous traduisait l'histoire des prophètes et tout ce qui s'est passé. Donc, c'était génial.
Ah oui. Ah, oh, ça a l'air vraiment... Ça sonne vraiment magique.
Oui, vraiment, c'est magique. Et vraiment, je le dois à mes parents. C'est pourquoi maintenant, je peux parler de beaucoup de choses parce que c'était un enseignement très encyclopédique et très pratique.
Très pratique.
Et puis, on avait la diversité des gens qui venaient du Mali, de la Mauritanie, qui venaient... Parce que mon père détenait une scène tournante pour les poissons, un grand filet qu'il fallait tirer, qu'il fallait 100 personnes ou 50 personnes pour tirer les poissons. Et il venait donc chercher du travail chez mon père. Et donc la nuit, on était avec eux. Et chacun nous racontait son histoire, son expérience, et donc nous enseignait de petites choses. Et donc c'était très bien.
Ah, c'est très très beau. Oui. Et tu as déjà écrit des livres à propos de cela?
Actuellement, je reprends les contes. Je reprends les contes des pêcheurs, je reprends les contes des Bassari. J'ai déjà édité sur l'art matin avec une de mes amies rythmistes, Marie-Claude, l'histoire de Samba, le pêcheur. Donc une mythologie à côté du fleuve. Donc, l'histoire d'un crocodile qui est le génie du fleuve. Et là, j'ai écrit aussi un conte Bassari qui est...
C'est un prénom, ça? Qu'est-ce que c'est?
Le Bassari,
oui.
C'est un peuple qui vit, qui vit au sud-est du Sénégal.
D'accord.
Et qui ont des rites, qui ont des classes d'âge et qui croient vraiment en un être, le père caméléon. Parce qu'en fait, le caméléon peut changer de couleur.
Oui.
Oui, mais intérieurement, il ne change pas. Et donc, le caméléon, comme disait Mpateba, c'est une école. Donc, il dit toujours aux gens d'aller à l'école du caméléon. Parce que le caméléon a des vertus.
Oui.
Et donc, le caméléon change de couleur. Changer de couleur, c'est s'adapter. C'est pouvoir être avec tout le monde. Mais, comme il le disait aussi, les signes, les symboles sont diurnes et nocturnes. Les durs, mmh. c'est-à-dire du jour, sont fastes. Les nocturnes sont néfastes. C'est-à-dire changer de couleur au niveau diurne, c'est le bon côté. Mmh. S'adapter. Mais changer de couleur au niveau nocturne, mmh. c'est être versatile. Quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Donc chaque symbole a des significations.
Oui.
Le jour et la nuit.
Aha.
Le jour, c'est toujours le bon côté.
Mmh.
Et la nuit, c'est toujours le mauvais côté. Le caméléon ne se retourne pas. Il fait pivoter son œil sur 360 degrés et voit ce qu'il y a derrière. Le fait de ne pas se retourner, ça montre une certaine sécurité.
Oui.
Et le fait au niveau nocturne, le fait de se retourner, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui.
Oui, oui, qui a
donc,
peur peut-être,
qui a peur.
Ou qui est intimidé.
Alors que de l'autre côté, c'est quelqu'un qui sait où il va. Le caméléon, quand il pose le pied avant de poser l'autre, il accroche sa queue préhensible sur l'arbre, regarde s'il n'y a pas de danger avant de poser l'autre.
Mm-hmm.
Mais ce qui est génial, c'est que le caméléon a le ventre bourré d'une langue visqueuse qui lui permet de prendre sa proie, l'insecte. Mais s'il jette sa langue et qu'il rate sa proie, il ramène sa langue dans sa bouche, dans son ventre, réfléchit, prend la distance, regarde bien et cette fois, il ne va pas le rater.
Ah.
C'est pourquoi nous tous, nous devons pouvoir parfois ramener notre langue à nous.
Mm-hmm.
Avaler sa langue.
Mm-hmm.
Ah, j'ai fait mon examen, je ne l'ai pas eu. Non, je reprends, je concentre mes efforts et je tente une deuxième fois.
Ah oui.
Et c'est comme ça que donc, ça a inspiré beaucoup de sociétés. Et donc, les fils du caméléon sont en classe.
Mm-hmm.
Les pas mûrs, les presque mûrs et les mûrs. Et ils font 3 ans d'initiation, 5 ans d'initiation, 6 ans et une année d'accomplissement, 7 ans,
mm-hmm.
pour devenir vraiment fils du caméléon.
C'est vrai.
Donc, et ils vivent ensemble. Et c'est vraiment une ethnie qu'il faut beaucoup voir et qui a beaucoup d'histoire.
Ah,
et donc, j'ai pu parler donc, dans certaines conférences, de montrer leurs initiations,
mm-hmm.
qui ressemblent à d'autres.
Mm-hmm.
Mmh, et finalement, c'est très riche.
C'est très riche.
Et ainsi qu'on on verra la même chose chez les Serres, chez les Diola. Et donc, on est vraiment dans un milieu très riche au niveau culture. Et je me rappelle maintenant, parce que les enfants ont besoin de connaître ça pour pouvoir vraiment grandir dans la sagesse. Et c'est pourquoi il est temps qu'on reprenne tout ce patrimoine et qu'on donne ça à nos enfants, plutôt que de prendre quelque chose qui vient d'ailleurs et que les enfants ne connaissent pas.
Oui, je comprends, oui.
Mm-hmm.
C'est beau. Et tout à l'heure, tu parlais des langues. Donc là, je me demande, je m'imagine, et les pluriculturalismes comme ça, je m'imagine que vous avez aussi, où tu es grandi avec plusieurs langues, et il y a plusieurs langues au Sénégal, non?
Il y a plusieurs dialectes, oui, effectivement,
dialectes,
quand
plutôt.
On parle. Il y a les Wolofs qui sont majoritaires. Il y a les Poulards, il y a les Diola, et selon qu'on est au nord, au sud, au centre,
ouais.
il y a donc les différents dialectes.
Mm-hmm.
Et maintenant, le Wolof est le plus parlé, mais tout le monde pratiquement peut un peu parler, et chacun a quelque chose de spécifique. Donc, au niveau culturel, selon qu'on est au nord, au sud. Parce que le Sénégal est un des pays où on trouve tous les écosystèmes,
mm-hmm.
les dunes, les plaines, un peu de montagne, donc le désert, on peut trouver un peu partout.
Et la mer.
Et la mer,
oh,
700 km sur l'Atlantique.
Wow.
Mm-hmm. Ouais.
Ah, c'est magnifique ça.
C'est magnifique.
Ouais. Et toi, tu comprends plusieurs langues ou tu les parles au dialecte ou...
Je comprends plusieurs dialectes.
Mm-hmm.
Oui, donc parce que j'ai été instituteur, j'ai été affecté en milieu Peul. Et donc, où les gens ne parlaient pas très bien Wolof. Et donc, j'avais des petits-enfants. J'avais l'école élémentaire. J'étais directeur d'une école élémentaire. Et les parents qui venaient étaient peuls. Et il fallait effectivement que je parle un peu, que je parle un peu peul.
Ah, d'accord.
Mm-hmm. Chez les Wolof aussi, j'étais chez les Lébou, à Saint-Louis. C'est toujours la même le même dialecte, mais avec des différences selon les régions, selon les accents. Après, j'ai fait aussi l'école française, où j'ai appris un peu l'anglais, un peu l'arabe, ainsi de suite. Mais vraiment, le Sénégal est un pays multipote, plus de 9 dialectes. Mais les gens se comprennent, il y a beaucoup de tolérance au niveau des langues.
Et si on vient comme étant étrangère ou étranger, il faut surtout apprendre le Wolof, c'est ça? C'est un peu la langue principale?
Oui, il faut surtout apprendre le Wolof. Et puis, le Wolof, donc il y a eu, étant des années de colonisation, il y a beaucoup d'interférences entre le Wolof et le français.
D'accord.
C'est ainsi que tous les concepts modernes, c'est ainsi que cuillère, on dira koudou, chaise, on dira chaise. Quand tu dis bonjour, tout le monde te comprend. Quand tu dis table, tout le monde comprend que c'est une table.
Table, ouais.
Oui. Quand tu dis télévision, micro, toutes ces choses, c'est parce qu'il n'y a pas eu au départ. Et donc, on prend le mot, mot le plus, le mot français.
Oui.
Avec une petite déformation, parce que le che, le je et le ve n'existent pas en Wolof.
Ah, d'accord.
Donc, à la place de vélo, ils diront vélo.
Ah, ok.
Et donc, mais sinon, c'est vite compris. Donc, voilà. Et puis, consonne, voyelle, n'existe pas dans le système consonantique Wolof. Par exemple, le Wolof ne pourra pas dire... Le Wolof qui n'a pas été à l'école ou tout, il ne pourra pas dire place. Il va dire palace. Il va mettre une voyelle entre les deux.
Je pensais dans la langue arabe, c'est pareil.
Oui.
Il faut toujours mettre des voyelles entre
entre les deux consonnes.
Oui.
Et
oui.
Donc, du coup, c'est facilement. Donc, si vous venez au Sénégal, vous pouvez... Alors, taxi, je veux aller à la plage, mais les gens, ils comprennent.
Ils comprennent, ouais, ok.
N'ont pas besoin de... Parce que, voilà, il y a beaucoup d'interférences avec le français.
Le français, oui. Mais je trouve que ça vaut toujours la peine d'apprendre la langue du pays.
Oui, c'est très bien parce que...
Parce que la culture s'ouvre derrière. C'est
derrière,
comme des portes qui s'ouvrent.
Parce que d'où viennent les mots, leur étymologie, leur sens.
Oui, c'est...
Et puis, en Afrique, la parole, c'est quelque chose. On peut tuer, on peut foudroyer, on peut faire du mal avec la parole. On peut déplacer tout avec la parole. C'est pourquoi on est vraiment... une langue orale.
D'accord.
Donc, depuis des temps très loin, les gens se transmettent tout par la parole. Donc, c'est pourquoi toujours, dans la guérison, c'est par la parole. La puissance de la parole en Afrique, c'est très important.
C'est très important. Et ça a une valeur aussi, une importance, c'est
ça? Une importance capitale.
Capitale.
Oui.
C'est-à-dire que la parole compte aussi plus peut-être qu'ici, je ne sais pas.
Tu compte as une... plus qu'ici, aussi, la parole, les mots. Autrefois, même quand un lion venait, les gens lui adressent une parole et il s'immobilise. Et jusqu'à présent, dans certaines parties, le matin, tu prononces une parole, la personne reste figée. Donc, ce qui fait que la parole a quelque chose de mystique en Afrique.
Oui. Et même ça peut, comment dire, guérir.
Ça peut guérir,
donc,
ça peut faire du mal.
Du mal aussi.
D'ailleurs, chaque fois, les rebouteux et tout, ils ne font que des paroles. Quand on a, parce qu'avant, il n'y avait pas l'hôpital. Et quand les gens avaient un membre cassé ou déplacé une foulure, il suffisait juste de dire quelques paroles pour que ça puisse se remettre.
Et ça a fonctionné.
Et jusqu'à présent, quand tu as mal, tu as mangé quelque chose, quelqu'un dit une parole. Cette parole, donc...
Donc, c'est presque comme une petite prière.
C'est comme une prière.
Comme, oui.
Bien vrai que ces paroles, parfois, n'ont rien à voir avec la prière traditionnelle.
Oui.
Mais tout juste dire des mots qui ont un contenu. Donc, il y a un contenu, il y a une expression phonique qu'on entend, mais aussi, il y a un contenu sémantique. Et donc, que seuls les initiés peuvent savoir. Donc, ce qui fait que la parole est vraiment sacrée.
Et si je promets quelque chose à quelqu'un, ça suffit que je le dise. Ma parole compte plus qu'à l'écrit, par exemple, ou je dois aussi...
Mais avant il n'y avait pas d'écrit. Quand on dit que celui-là, c'est un homme de parole, je l'ai dit, c'est fini. J'ai dit, et puis... Et aussi, mais cette parole aussi qui se dit toujours et qui est sacrée, n'a pas que le bon sens. Moins on parle, plus on est sage.
Ah, moins on parle, plus qu'on est sage.
C'est ainsi qu'il y a un roi chez nous, il parlait qu'une fois par an.
Et qu'est-ce qu'il disait?
D'un peine de Niémé. Non, c'est-à-dire que toute l'année, il se consacrait et on dit, c'est le jour où il parle. Ah. Et ce jour, il parle des paroles utiles pour tout le monde. Et c'est fini, ce sera pour l'année prochaine. Le temps d'observer, de regarder, c'était vraiment sage.
Ah, ça existe donc, toujours?
Oui, parce que non, maintenant, les gens parlent beaucoup. Et quand on parle beaucoup, on est obligé parfois de faire des travers. Donc, parfois, le mutisme, aussi pour les grands hommes, c'était quelque chose. Ils agissaient plus qu'ils ne parlaient.
Oui, ça a une grande importance aussi de parfois ne rien dire. Et ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire quelque chose.
Oui, ah, tout à fait, oui. Mm-hmm. Ouais.
Et quand tu parles, parle en bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Si tu ne peux pas parler en bien, tais-toi.
Oui, vaut mieux rien dire que dire quelque chose.
Et puis parler pour ne pas se faire comprendre, c'est mieux que de te taire. Ça aussi, c'était dans nos enseignements.
Comment tu peux répéter ça, s'il te plaît?
Parler pour ne pas se faire comprendre. Mieux vaut se taire.
Oui, oui.
Plutôt que de parler à quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu dis.
Ah oui, ça
c'est mieux de te taire. Et donc, ça, ce sont des vertus qu'on nous a apprises très jeunes. Mm-hmm. Ouais. Parce que chaque organe, que ce soit la bouche, le nez, les oreilles, les cinq sens, ont quelque chose chez les Dogons, chez les Wolofs, chez les Sélères, ont une signification. Donc, nous, tous nos cinq sens ont quelque chose qui peut signifier quelque chose. Et donc, c'est pourquoi c'est très important aussi la sensation, les yeux, ce qu'on écoute, l'oreille. Donc, chaque chose a sa signification.
C'est sûr qu'il y a plein de livres aussi à propos de
ça. Il y a plein de livres, donc il y en a beaucoup. Et selon la société où on se trouve, on trouve beaucoup de symboliques. Beaucoup de symboliques. Et tout ça, avant, ce n'était pas à l'école, mais ça se faisait pendant l'initiation. Les jeunes étaient partaient en campagne. Ils écoutaient. Qu'est-ce que tu entends? Alors, ils entendaient le vent, ils entendaient le bruit d'un animal. Après, il fallait le matin observer les empreintes. C'est l'empreinte de quoi? Il y a un serpent qui est passé, il y a une sauterelle, et donc tu pouvais les identifier, et ainsi de suite, tu pouvais toucher. Qu'est-ce que tu ressens? Et donc c'était vraiment une éducation.
Oui.
Des sens.
Des sens et de la vie aussi.
Et de la vie.
La réalité.
Oui. Et comme on était dans un monde animiste, vous savez, l'animisme, c'est une religion qui pense que les choses, les objets ont une âme. Et ça, c'est la religion principale avant l'islam et même actuellement avec un syncrétisme. On pense que jusqu'à présent, l'arbre, le vent, tout nous parle et qu'ils sont là. On pense que les morts ne sont pas morts. D'ailleurs, si vous avez lu un peu Birago Diop, c'est un des grands poètes africains. Il disait, écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis.
Oui, c'est ça.
Ils sont dans l'eau, ils sont dans le feu, ils sont dans l'enfant.
Et ils sont là pour nous aider aussi, non?
Ils sont là, ils nous écoutent.
Ils nous écoutent.
Et donc, c'est pourquoi partout, on a l'impression qu'on est entouré de tout, que tout a une âme. Donc, c'était ça l'Afrique traditionnelle. On n'osait pas parler très fort la nuit. Et lorsqu'il fallait manger quelque chose, un petit bout de mouton, ah, y a la grand-mère qui est là, on pose un mouton. Un morceau de mouton ici, un morceau de lait.
Ah oui.
Vous voyez, c'est vrai qu'avec la pratique de l'islam, tout ça a beaucoup disparu. Mais jusqu'à présent, dans les sociétés animistes, on pense qu'ils sont là dans la mer. Lorsque la mer est furieuse, il n'y a pas de poisson, ah, c'est l'ancêtre qui est là, qui n'a pas pu être satisfait. Donc il faut qu'on lui donne à manger.
Un peu de poisson ou quelque chose.
Oui, quelque chose. Et c'est pareil pour les arbres. Tu ne vas pas cueillir des racines de mangue pour se soigner sans venir le saluer ou de baobab. Bonjour baobab, je te salue. par ton nom. Ah. Et tu connais, on connaissait les noms de famille des arbres. Et tu les salues par ton nom. Je viens chez toi, je viens chercher des feuilles pour que l'enfant soit soigné, et pour faire des cordes,
oui.
Pour me soigner d'une diarrhée. En échange, je te donne du sucre ou je te donne ceci, cela, et tu le caresses. Et tu prends les feuilles et tu n'avais droit qu'à prendre une petite partie. Et tu vois, c'est une bonne chose pour préserver l'environnement.
Absolument, oui.
Absolument.
C'est une pensée très moderne aussi.
Très moderne aussi, ouais. Pour l'environnement.
Prendre soin de
Quand on
l'ambiance.
Partait chercher avec ma grand-mère des plantes tentorielles, ah non, tu n'as pas le droit de prendre plus d'un poignet, alors qu'il y en avait partout. Et tu te déplaçais sur des kilomètres pour aller en prendre encore.
Alors.
Oui, c'était ça, l'Afrique.
Oui,
mais
oui.
Maintenant, tout se perd.
Tout se perd, ça change aussi.
Ça commence à changer.
Ouais.
Et il est temps donc qu'on revienne donner cette spiritualité aux enfants. Mmh. Écouter le vent en sanglots, comme disait Birago. Oui. Essayer de reprendre, de voir les étoiles, d'écouter le mouvement des oiseaux. Ah, hier, il y a un oiseau qui a crié 3 fois dans la nuit. Ah, ça nous annonce un décès. Et c'était comme ça. Hier, j'ai entendu tel oiseau crier à telle heure. À cette année, il n'y aura pas beaucoup de pluie.
Mm-hmm.
Et c'était comme ça que les gens...
Et c'était correct, c'était vrai.
C'était correct, c'était vrai.
Ah waouh, ça c'est incroyable.
Maintenant, les gens n'écoutent plus le chant des oiseaux, le rugissement de certains animaux. Ils ne regardent plus les étoiles pour voir donc cette année sera une année de chaleur.
Mm-hmm. On peut le voir dans les étoiles.
Ce sera une année de disette. Donc, ce que les Arabes appellent Ilmul Nujum, la connaissance des étoiles, c'était déjà connu chez nous.
Vous.
Donc, les gens, il suffit qu'ils pouvaient regarder pour prédire ce qui se passait.
Tu sais, ça me rappelle une histoire. J'étais il y a quelques années en Suisse, ça fait quelques années avec la famille. Et on était dans un parc national, en nature, en train de faire la montagne, comme ça, marcher des heures et des heures dans la nature. Et il y avait des gardiens de la nature, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui prenaient soin des arbres, qui regardaient que personne jette la poubelle, etc. Et c'était l'époque où les cerfs, tu sais, en automne, les cerfs, trouvent le couple, comment dire.
Oui, le brame des cerfs.
Oui, c'est ça.
Oui, le brame des cerfs.
C'est très impressionnant avec les grands.
Oui, oui.
Mais de toute façon, ce monsieur nous a dit, ah, vous regardez justement ces oiseaux, ils sont très bas là, Alpendole s'appelle en allemand. Ils sont très bas, ça veut dire demain il va neiger. Et tout le monde a ri, ah, comme si c'est vrai, etc. Ah, comme s'il sait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, la neige, on s'est réveillé, il neigeait beaucoup et on voulait rentrer en Allemagne en voiture. Et justement, tout la route, là où on devait passer par les montagnes, c'était bloqué tellement qu'il avait neigé. Donc, on s'est dit, c'est incroyable.
C'est la même chose avec hirondelles.
Il sait
les
ça.
Les hirondelles.
Ouais.
Il peut prévoir l'orage selon qu'ils sont haut ou bas.
Oui.
On dit, ah, aujourd'hui, tu vois les hirondelles.
Oui.
Ils savent qu'ils sentent l'orage.
Ils savent qu'est-ce qui c'est dans l'air, non?
C'est dans l'air.
On dit la même chose pour les tremblements de terre, je crois.
Oui,
avec
oui.
les animaux, ils ont un présence, non?
Pendant 24 heures avant, il y en a qui sentent les vibrations.
Oui, personne des humains peut
des humains, donc,
pour
voilà.
le moment sentir ou savoir.
Mm-hmm.
Ah, ça, c'est très
c'est
impressionnant. C'est très beau.
Oui.
Et je peux revenir au sujet de l'art que tu as fait dès que tu étais petit. Ta grand-mère t'a montré, c'est ça
les... Donc ça, c'était au niveau
la
peinture, de la teinture.
Teinture,
donc,
oui.
Donc, quel arbre pouvait teindre, parce qu'il fallait quand même... vous savez, après, donc pendant moi, j'étais pas né.
Oui.
Donc, la guerre 39-45 ou autre,
oui.
il y a eu une famine, puisque tous les produits agricoles devaient être exportés en France pour nourrir les militaires.
Oui.
Donc, les gens, il paraît, ma grand-mère me disait qu'il y avait dans les maisons un seul habit et qu'on faisait avec des sacs de farine. À l'époque, c'était du coton.
Oui.
Et on se mettait un turban que quand quelqu'un devait sortir, on lui prêtait ça. Et après, quand il venait, il remettait cet habit. Alors, face à ce problème, il fallait tisser les fibres,
oui.
il fallait les teindre.
Ah.
Et donc, c'est ainsi que, donc, par tâtonnement, finalement, les gens sont parvenus pour trouver des teintures durables.
Mm-hmm.
Et chaque couleur aussi avait sa signification.
Ah. Ah,
C'est ainsi que, par exemple, l'indigo dont je suis spécialiste, il avait un contenu vraiment mystique. C'était le bleu. Ce bleu qui était vraiment magique pouvait être quand quelqu'un avait mal, quand quelqu'un avait des problèmes de nerfs. Donc, il prenait non pas la plante, mais aussi s'habiller avec. Et donc, c'est ainsi que dans tous les rites en Afrique, à la naissance, on recouvre le bébé en général de tissu indigo.
Ah, d'accord.
Et pendant la circoncision, il porte l'habit indigo. Au mariage, c'est l'habit indigo. À la mort, c'est couvert d'un pagne indigo.
Ah, pas blanc comme
Non, parce que l'indigo, c'est la couleur de la sagesse. Effectivement, le blanc, c'est le linceul, c'est l'espoir. Mais au-dessus, pour l'amener chez les cimetières, on met le tissu indigo dessus, ou chez les autres, un kita. Donc, ça dépend de quel pays. Mais l'indigo, donc c'est bleu, c'est orangé. Moi, je me rappelle que lorsque les filles avaient mal, elles avaient leur période. Elle demandait des médicaments. Et jusqu'à, oh là là, pourquoi tu prends de l'aspirine ou tu prends des choses comme ça? On leur disait tout simplement de prendre un morceau de tissu blanc, de mettre de la colle qui est de la couleur orangée, qu'elles attachaient ici, juste au niveau du pubis, et le mal était passé. Donc c'était juste un qu'on attachait, qu'on mettait juste là. Alors, par la suite, quand j'ai été un peu plus grand, j'ai dit, mais je trouvais un peu absurde et j'ai cherché chez certains, j'ai trouvé que ça correspondait, cet orangé correspond à un chakra qui est là.
Ah, en
Chez
plus.
d'autres aussi, l'orangé était une couleur et ainsi de suite, que l'indigo était ici. Vous voyez? Et quand j'ai lu beaucoup de livres dans l'anthroposophie et tout, j'ai eu une certaine perception des couleurs, mais je me suis dit, mais ça existait chez nous depuis longtemps. J'ai vu
C'est
ma
vrai.
grand-mère faire, mais je pensais que c'était tout juste quelque chose d'étonnement, alors que bien maintenant, on trouve que
Il y a
ces
un
couleurs,
sens.
dans d'autres sociétés, ont eu quand même des aspects thérapeutiques.
Oui, tout à fait. Ah, c'est intéressant. Parce qu'on parle aussi, je pense, de quelle couleur. Ici, on est entouré de ces jaunâtres, jaunes,
Oui.
oranges. C'est accueillant, non? On dit que, on sent aussi personnellement que
On le
les
sent, on le
couleurs ont
sent.
des certaines.
Pourquoi le jaune, pourquoi le bleu, pourquoi
Oui.
certaines couleurs nous amènent, par exemple, le bleu t'amène vers d'autres horizons.
Oui,
Et à
ça fait
travers
rêver.
l'histoire, on a trouvé que les gens, par exemple, de la Grèce antique ne connaissaient pas le bleu.
Qui connaissait pas le bleu?
La Grèce antique, il y
Ah oui,
a
ok.
Michel Pastoureau qui a écrit un livre qui s'appelle Bleu, l'histoire du bleu à travers les siècles. Comment c'est revenu à la mode, quelle signification ça a pris, ainsi de suite. Et c'est très important. Et aussi, en même temps, ces couleurs aussi correspondent au degré de l'âme. Il y a des moments où on est dans le bleu, des moments où on est dans le violet. Et aussi, ça figure aussi le spectre solaire de la lumière, l'arc-en-ciel. Vous voyez donc la signification qu'on lui donnait autrefois. Vous voyez donc les gens se mettaient à agenouiller devant dans des sociétés primitives parce que cette décomposition de la couleur, quel sens ils avaient et on chantait quand on voyait l'arc-en-ciel. Donc tout ça, c'est important. Parce que toujours dans toute la culture, il ne s'agit pas de dire si c'est vrai, si c'est faux, si c'est absurde, mais c'est tout simplement dire qu'en un moment de l'histoire, les hommes ont utilisé telle ou telle chose pour guérir, telle ou telle chose pour être content. Et c'est ça.
Et il y a certaines continuations, non? Il y a
Oui,
certaines choses qu'on fait jusqu'à
et c'est
aujourd'hui.
tout ce patrimoine immatériel que nous voulons reconstituer. C'est pourquoi moi, très tôt, j'ai commencé à prendre beaucoup d'objets pour faire quand même une collection des objets de notre patrimoine immatériel. Comment, pendant un certain moment, les gens ont utilisé des objets, les ont tournés en dérision pour soigner, pour conjurer le mauvais sort, pour faire des maléfices. C'est toute l'histoire. Donc, par exemple, le tam-tam qui a servi, la peau de tam-tam, pendant en Afrique, tu vois, c'était quelqu'un qui le portait, avait de l'aura, il avait beaucoup de succès, ainsi de suite. C'est ainsi qu'un enfant on lui donnait une calebasse, qui n'a pas d'appétit, une partie de la calebasse qu'on mettait dans de l'eau, la calebasse qui servait, il le buvait, ainsi de suite. Et tout ça, est-ce que il s'agit pas de dire si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais d'être témoin de notre temps, de dire qu'en Afrique, à un certain moment, il s'est passé cela dans telle société. Et c'est un travail auquel je me suis acharné pendant des années. Mmh. Et donc, jusqu'à présent, je peux en parler et peut-être un jour l'écrire.
Oui, ça serait bien, je pense. Ah, c'est une grande richesse. Enfants. Ah oui, c'est une grande richesse. Oui, et je pense que c'est important ce que tu viens de dire avec ne pas dire si c'est faux ou est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Mais je pense que c'est un sens important aujourd'hui aussi de ne pas juger des choses qu'on ne comprend pas.
Parce que derrière, il y a toujours un contenu.
Il y a quelque chose.
Nous, on n'avait pas l'habitude de... après le manger dans les villages, et surtout pendant les moments de clair de lune, il n'y avait pas d'électricité. Alors les enfants se retrouvaient à la place du village, sous l'arbre, à palabre, comme on dit. Les plus âgés par là, les moins âgés et les tout petits. Et sous la houlette du grand-père qui était là, qui était le sage. Et alors les gens faisaient une conquête en posant des questions, des devinettes, des contes. Et quand on ne trouvait pas, on venait tout, grand-père, alors est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Non, je me rappelle. Et c'est comme ça qu'on s'est construit, donc à travers des anecdotes. Oui. Et c'était vraiment l'initiation. L'initiation. Donc ta mère pouvait te parler ou te faire des reproches sans que les autres sachent ce qu'il t'a dit. Et c'était ça l'initiation. On pouvait se parler, rien qu'un regard, rien qu'une parole qui n'a rien à voir avec le sujet, tu comprenais ce qui allait se passer. Une petite anecdote. Alors, un père de famille avait le matin tué une chèvre. Parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas mangé de viande, il avait envie. Alors le matin, il tue sa chèvre et il donne ça à sa dame. Et il est parti à la place du village. Alors la dame s'inquiétait. Alors mon mari, il a tué la chèvre. Il ne m'a pas dit ce qu'il fallait en faire. Est-ce qu'il faut le manger aujourd'hui? Est-ce qu'il faut garder ça plusieurs jours? Est-ce qu'il faut le partager? Alors il s'est dit, mais si je partais, si je lui dis ça à la place du public, tout le monde va venir manger parce que dans les villages, c'est comme ça. Et peut-être qu'il n'aurait pas aimé parce que ça ne va pas suffire.
Oui.
Et si je ne lui dis pas, je prépare tout aujourd'hui, il va me dire que c'est du gaspillage. Et si j'attends les prochains jours, il va dire que j'en ai préparé peu. Comment il faut faire? Alors le jeune enfant lui dit, son fils lui dit, mais maman, tu sais que je n'ai pas été initié pour rien. Attends, je vais lui dire. Fais attention, il dit. Ah, je vais lui dire ça. Alors, il vient, il trouve son père en train de jouer aux dames. Alors, il lui dit, mais papa, qu'est-ce que tu as à faire ici comme un mouton qu'on a tué? On ne sait même pas quoi faire. Vraiment, tu restes ici, tu sais, on ne sait même pas, comme un mouton qu'on a tué, et on ne sait même pas quoi en faire. Le père sort son couteau. Il fait semblant de poursuivre l'enfant. L'enfant fait un pas comme pour courir. Le père s'arrête et lui dit, « Ah, si je t'attrapais, j'allais te tuer. Je vais te partager en deux et te manger aujourd'hui et le reste le lendemain.
Oh.
Tu as la chance. » Et il est parti s'asseoir. L'enfant est parti dire à sa mère, « Oui, il faut qu'on mange une partie aujourd'hui et l'autre demain. » Et un vieux qui était là-bas, qui avait l'oreille comme ça, lui dit, « Écoute, ce soir tu vas m'inviter et demain aussi, parce que j'ai compris ce que tu as dit. » Oui, c'est comme ça, les gens se parlaient par des mots. Et jusqu'à présent, alors les gens pouvaient se comprendre.
Et si moi, par exemple, je ne comprends pas.
Tu comprends rien.
J'aurais peur qu'il veut tuer son enfant.
Non, alors que
mais c'est pas ça.
Alors c'est
pas
pour
ça.
Lui dire que le mouton qu'on a tué, on ne sait pas quoi en faire.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, donc, si je t'attrape, je te tue, et je te mange aujourd'hui et demain. C'était pour lui dire que pour le mouton, il faut en manger aujourd'hui et demain.
Une partie et demain,
tu vois.
Oui.
Et c'était donc des paroles qui n'avaient rien à voir et que l'étranger qui était là,
Oh là là,
il ne comprenait pas. Et, et jusqu'à présent, c'est comme ça. Parfois, nos mamans, nous, on a eu quand même cette chance, elles pouvaient nous parler par des paroles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on dit. Et quelqu'un qui ne comprend pas, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais il est... Alors qu'il y a vraiment un sens.
Un sens, oui. Ah, c'est magique, vraiment.
Oui.
Ah, c'est pas mal ça. Mmh. Ah, voilà. Et pour un peu revenir sur ta biographie, après, à quel moment tu as eu l'idée de fonder le Sekalwangi? Et qu'est-ce que Sekalwangi veut dire d'ailleurs?
Sekalwangi veut dire parfum de fleurs.
Ah, ça c'est beau.
Parfum de fleurs, parce qu'un jour, parce que j'ai été, je faisais du batik, de la peinture.
Oui.
Et un jour, les Indonésiens ont découvert mes batiks. Ils m'ont dit, oui, ça c'est bien et ce serait bien. Il y avait un ambassadeur qui s'appelait Utoyo Yamtomo. Il m'a dit, mais c'est bien que tu partes à Jakarta. Et j'étais très jeune pour voir le batik indonésien, comment c'était fait avec le changching et tout. Et quand je suis venu, il m'avait donné de l'équipement, des armoires, des trucs. Il m'a dit, oui, ton atelier, ton centre, parce que je faisais l'initiation pour les femmes. Il m'a dit, on va l'appeler Parfum de Fleurs.
Ah.
Sekar Wangi. Donc, en se souvenant un peu de, du jasmin.
D'accord.
Il m'avait donné une grande fleur parfumée et que j'avais accrochée dans le centre. Ah. Et c'est ainsi que je l'ai appelée Sekar Wangi, parfum de fleurs.
Et c'est c'est quelle langue, donc?
Indonésien.
C'est indonésien?
Oui.
Ah.
Parce que le batik est né en Indonésie.
Ça,
c'est un terme malais indonésien. Ba, l'action de faire, titik, des points.
D'accord.
Ou craquelure.
Oui.
Et donc, du coup, j'avais donc mon centre social avec des filles à qui j'enseignais le batik. Mmh. Alors, j'ai trouvé que les enfants, des enfants du quartier qui étaient vraiment laissés à eux-mêmes, qui n'avaient pas d'éducation, se mettaient sur les murs.
Oui.
Ils nous jetaient des pierres.
Oh.
Ils criaient, ils nous jetaient de l'eau, ils agressaient les filles et les femmes qui étaient là-bas.
Mmh.
Elles ont voulu réagir, j'ai dit non, c'est parce qu'ils s'ennuient. Alors les enfants, vous voulez travailler aussi? Alors j'ai donné des morceaux de tissu, du papier, ils ont commencé. Et le lendemain, à 8 heures, ils sont venus, on fait de la peinture.
Ah bon?
Et ainsi de suite, après j'ai pris tous les enfants.
Mm-hmm.
Je me suis fait moi-même des tables en forme de lion, en forme de pomme. J'ai commencé et désormais l'école était née.
Ah, c'est ça.
Donc je travaillais là-bas donc, et je commençais à avoir des enfants.
Mmh. Qui venaient comme ça du quartier.
Qui venaient comme ça du quartier.
Oui.
Les mamans, même pas, c'est après qu'ils ont été au courant qu'ils pouvaient finir faire de la peinture.
Ah, ça c'est bon.
Et donc, vers les années 98, je suis parti en France.
Mmh.
Là aussi, c'était des dames qui étaient venues pour un jumelage, et des Françaises. Elles voulaient partir au marché.
Mmh.
Elles se sont trompées de route.
Oui.
Elles sont passées, ils ont vu batik. Et une dame est entrée avec tout un groupe, ils étaient presque 15.
Ah.
Ah oui, on prépare notre jumelage en France, dans l'Allier, à Saint-Menou, et particulièrement à Yzeure. Alors qu'est-ce que tu fais? J'ai expliqué le batik, j'ai expliqué ma grand-mère, et il y en avait une qui avait les larmes qui étaient. Et est-ce que tout ça, tu pourrais raconter ça en France, dans un petit village, tu pourrais faire des ateliers? J'ai dit oui, et ils m'ont fait un contrat.
Ah.
En 1998, donc en avril, je suis venu en France pour faire un atelier. Ça a eu beaucoup de succès et ils m'ont invité l'été.
Wow.
Alors l'été, j'étais dans un tout petit village, c'est là où se trouve la Motte, c'est là où se trouve Saint-Menou et tout. Alors j'étais à la mairie, à la mairie de Saint-Menou. Jusqu'à présent, ils m'ont donné un logement, c'est qui m'ont donné ma carte de séjour depuis 25 ans. Et donc du coup, j'ai commencer à faire de la peinture. Au moment où je faisais de la peinture, il y a des gens qui venaient s'inscrire avec leurs enfants. On faisait des tableaux de sable, on faisait du batik, on faisait des collages, et des tissus africains. Et j'ai eu 3 enfants qui étaient venus s'inscrire. Alors ces enfants étaient très à l'aise dans les peintures. Ils faisaient des dessins celtiques. Il peignait comme ça la peinture d'une manière très spontanée. Et pendant les petites pauses, ces enfants prenaient un instrument de musique. Ils n'étaient pas comme les autres du village.
Mmh.
Tellement ils avaient un don et une liberté et un épanouissement. J'ai dit, mais qui sont ces enfants? D'où viennent-ils? Alors une personne qui était à côté me dit, attention, ce sont les Steiner. Pour des Steiner, ils sont à l'école La Motte. Tu fais attention, ne leur parle pas, c'est une secte. J'ai dit, ah bon? Ah, ça me plairait ça.
Oui.
Parce que ces enfants qui sont épanouis, moi qui suis professeur d'art, qui trouvent ça. Après, je suis parti à l'école.
À cette école-là, à La Motte.
Oui, à La Motte. J'ai demandé. Oui, c'est là. Et alors, il y avait un érythmiste qui s'appelait Pierre Payan. Il m'a parlé de la pédagogie Waldorf. Et avec Marie-Claude qui était rythmiste aussi, ils m'ont parlé de Steiner, j'ai lu les livres, j'ai dit, ah, cette pédagogie est vraiment géniale. Ah. Comme j'étais à l'éducation nationale,
oui.
Je suis parti, j'ai écrit au ministre, je lui ai dit que j'ai vu une pédagogie qui tienne en compte vraiment l'être humain dans sa globalité, et aussi j'ai vu aussi... au moment où l'art est traité en parent pauvre, parce que les enfants ne voulaient même pas de la peinture, parce qu'on n'en faisait pas dans les écoles, et moi je voudrais la promotion de l'art étant artiste, j'ai demandé à aller faire cette pédagogie, et ils m'ont fait l'ordre de mission pour aller faire cette pédagogie.
La formation,
la tu formation, as fait une formation au foyer Michael, dans un foyer anthroposophique. Avec Pierre de la Negra, à qui je dois beaucoup de choses. Et il y avait tous les anthroposophes qui venaient de Verrières, de Chatou. Donc j'ai eu à visiter Verrières, Chatou. Et il y avait Marie-Angélique Cuisinier, je ne sais pas, c'est elle qui était de la communauté des chrétiens qui venait. Uh-huh. Et on racontait les contes de Grimm avec vraiment tout le contenu. Et j'ai vécu toutes les quatre saisons. Là-bas, l'hiver, c'était autre chose, le printemps, l'été. Et j'ai vu aussi, je l'ai vécu, comment, par exemple, chaque saison pouvait être en nous.
Oui.
Tous ces gestes, tu vois. Et donc, je l'ai vécu donc, cet hiver. Et puis, j'ai vécu aussi comment c'était aussi avec l'homme. Ouais. Tu vois, ce moment où il fait froid. Après, le printemps était venu. Après, tout le temps, on était en été. Beaucoup de lumière et ça commençait à se dégrader. Et alors, je lisais beaucoup de choses. Quand j'ai lu « Quatre imaginations cosmiques de l'archange » de Rudolf Steiner, j'ai dit, mais ça me parle. Parce que comment les anges interviennent dans les saisons, c'était quelque chose qui était proche de l'islam.
Ah, d'accord.
Djibril, Michael, les archanges. Tu vois,
oui.
J'ai dit, mais ça me parle. Quand j'ai lu aussi Théosophie, et qu'on me parlait des différents corps, le corps physique, le corps astral, le corps éthérique, j'ai dit, mais nous... c'était évident pour moi en tant qu'Africain.
Ah bon?
Parce que nous avons déjà ces trois conceptions du corps et que même dans nos thérapies, quand la personne ne marche pas, quand le corps physique est un peu en conflit avec le corps astral, l'éthérique ne marche pas. Et donc cette image de la pierre, de la plante, donc ça m'a dit, je me suis dit, mais ça m'intéresse.
Oui.
Comment acquérir la connaissance des mondes supérieurs, de Rudolf Steiner toujours, l'initiation, voyez, la nature humaine. Alors, je commençais vraiment à m'intéresser.
Wow. Et tu as tout compris tout de suite?
Tout de suite.
Ah,
après,
bon,
je me suis approché sur la métamorphose des plantes.
Ouais.
En tant que, et je me suis dit que, et j'avais toujours cette conception de l'homme et aussi dans le Coran, Zulumati Minanur. Donc l'homme et les prophètes et la science a pour objet de sortir l'homme de l'ombre vers la lumière. Et donc cette lumière, il faut qu'elle soit une lumière réelle. Et donc tout ce qui se passe entre Hariman et Lucifer, donc l'homme qui est la résultante de deux forces, l'une qui l'amène vers les trucs sombres. Là, je me suis dit, pendant tout ce moment que j'ai vécu, j'ai dit, mais c'est vrai. Et donc, oui, donc les plantes ont besoin quand même de ces forces formatrices pour pouvoir s'élever, grandir, revenir, retomber. Et c'est là que j'ai dit, ah, enfin, je comprends les mouvements de cette rythmie. Et cet hiver aussi que j'ai vécu la première fois, alors je me retrouvais intérieurement. Je n'avais pas la gaieté, le rire que j'avais au Sénégal. Malgré moi, je disais que pourtant je le vis. Donc j'ai vécu vraiment les quatre saisons.
Oui.
Et après, je me suis dit, et ça m'a permis de mieux comprendre.
Ouais.
Et là, après, j'ai commencé à regarder l'anthroposophie. Et à l'époque, comme je vous le disais, j'étais déjà informaticien. Et j'avais une bonne place qu'on m'avait proposée. Et j'ai eu l'occasion à Madame Goebel, Nana, que je connaissais et qui m'avait beaucoup aidé pour le foyer Michael, pour le séminaire, pour me donner une bourse. Je lui ai dit que on propose un poste d'informaticien. Non, Abdoulaye, ton destin n'est pas là-bas. Il faut que tu restes dans l'éducation, tu pourras faire quelque chose. Et donc, j'ai dit que oui, d'accord. Parce que la vie, ce n'est pas que de l'argent. Donc, et je suis resté dans l'éducation où je pouvais apporter quelque chose.
Oui.
Et donc, après avoir vécu ça, je me suis retrouvé dans beaucoup de choses de trouver. Alors, les gens me disaient, pendant Noël, j'avais joué le rôle de Melchior ou de Gaspard, le roi africain qui est venu donner la mire.
Oui,
et j'avais joué ce rôle. J'étais donc le prince noir qui était venu donner au Christ et tout. Les gens m'ont dit, mais Abdoulaye, pourquoi tu... J'ai dit que, mais attention, Marie est apparue 35 fois dans le Coran.
Ouais.
Et 26 fois Jésus dans le Coran. Donc, nous croyons en Marie. Et lorsque j'ai vu que la conception de... parce que Jésus, dans le Coran, il est appelé Insa Ruhullah, ou Al-Masih ibn Maryam, et ainsi de suite. Mais le fait de dire Ruhullah, Jésus, l'Esprit de Dieu, et j'ai lu dans une revue qui s'appelle Tournant, ce concept que Rav Shaner avait donné de cet Esprit de Dieu. Alors je me suis dit que encore de plus en plus. Donc ça a commencé à faire des questionnements sur l'anthroposophie, la manière de vivre ça. Et quand j'ai lu, parce que j'aime bien Goethe, donc la théorie des couleurs et tout, j'ai appris avec ces livres de Goethe, et j'ai vu comment il n'y a personne au monde qui est plus proche de l'islam que Goethe.
Ah bon?
Ah oui, j'ai beaucoup de ses écrits. Et si tu vois son écrit, si tu vois ses écrits par rapport à l'islam, tu serais étonné. Alors, connaissant le rapport entre Goethe et Rudolf Steiner, alors je me suis dit vraiment, c'est pas pour rien. D'ailleurs, je t'enverrai ses écrits, tu verras qu'il a beaucoup écrit sur le Coran, sur l'islam. Mais donc, après, je me suis approché. Et aussi, au fur et à mesure, j'ai découvert un peu Sekhem. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, et certains soufis. Et j'ai eu aussi à parler, puisque, elle s'appelait Marie Cuisinier et autres. Elle venait très souvent au foyer et on passait toute la nuit à parler. Je trouvais une dame, bien vrai qu'elle ne faisait pas de la communauté des chrétiens. On s'est dit, bon, écoutez, on va regarder ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie. Mais finalement, on s'est retrouvés dans plein de bonnes choses. C'est quoi l'âme? On s'est posé ces questions sur la nature de l'homme. Et moi, je dis que, écoutez, ce sont des questions qui existent et qu'on continuera à chercher. Puisque dans le Coran même... il dit Yassalonaka Anolo. Quand si on te pose la question par rapport à l'âme, à l'esprit, réponds que ça c'est du domaine de Dieu. Et donc il y a une certaine sagesse. Et puis la conception de l'homme. Vraiment, pour que l'homme ait une conscience, pour que l'homme puisse évoluer, il doit d'abord parfaire sa nature, parfaire son environnement et se parfaire lui-même. Donc, qui aime l'homme, aime Dieu. Donc, le fait d'assainir son environnement, d'assainir sa nourriture, d'assainir son corps, d'assainir son environnement, c'est donc aimer l'homme, c'est donc participer à l'évolution de l'homme.
Oui.
Et donc, du coup, ça aussi, j'ai retrouvé que, donc, il s'agit plus de ce qu'on disait, la sagesse de l'homme et l'amour de l'homme, mais comment concilier un homme, tu comprends, en veillant à tout ça. Et donc, j'ai trouvé quand même cette pureté en soi, tu vois. Parce que moi, comme on dit, enracinement, ouverture. Je suis musulman, je suis sénégalais, je suis dans les valeurs de mon terroir, mais je tends la main à tout le monde. Donc, c'est pourquoi la tolérance, accepter l'autre, le respect des droits humains, tu vois. Je suis moi-même, je ne change pas. Parce que dans le Coran, dans Sourate Ar-Rahman, vous allez trouver Ar-Rahman Allama Al-Quran, Khalaqa Al-Insana Allamahu Al-Bayan. J'ai créé l'homme, je lui ai donné une intelligence. Mais c'est quelle sorte d'intelligence? C'est une intelligence spéculative, qui n'est pas comme l'intelligence du singe, qui est pratique.
Oui. Manger et boire,
tu peux être dormir. Tu peux être mon professeur, ou ton fils même, tu peux l'enseigner, et demain il va te dépasser en connaissance.
Ouais.
Parce que donc c'est une intelligence évolutive. Donc à un certain moment, j'ai créé l'homme, je lui ai donné l'intelligence. J'ai créé la mer, j'y ai mis des trésors, des fleurs, des perles. J'ai créé le ciel et la terre, j'ai créé la nature. Ah, maintenant, mais tout ça, je lui ai donné l'intelligence. Pour qu'il puisse prendre ses perles, Dieu ne va pas te l'amener comme ça tout de suite, comme par magie. Non, tu dois te dire, oui, je dois aller en mer, rechercher, retrouver le trésor, reprendre la perle, la refaire, prendre cette pierre, en faire un objet. Et ça, c'est à partir de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Donc, un certain moment, tu proposes à la personne plein d'exemples. Il y a ceci, il y a cela, il y a du rouge, il y a du noir. Et c'est à toi maintenant d'utiliser ton intelligence pour voir qu'est-ce que tu prends. C'est pourquoi quand on est venu ici en Occident, on a trouvé plein de cultures. Mais comme on a eu cette intelligence et qui nous est propre à chacun, oui, moi j'ai choisi ça, mais je ne veux pas de ça. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. Les laisser parfois, c'est-à-dire leur donner de bons exemples. Et parmi ces exemples, ils vont voir, en fonction de leurs intelligences, qu'est-ce qu'ils vont. Donc, et donc, c'est pourquoi nous, on n'a jamais été déracinés. Parce que très, très jeune, on a eu cette base de nos grands-pères, de nos grands-mères. Je ne change pas. Je peux changer d'apparence, je peux changer de truc, mais toujours, quand je vois quelque chose, je me dis, mais qu'est-ce que m'en dit l'islam? Qu'est-ce qu'il me dit à propos de ça? Je ne fais pas de polémique, mais ça, je peux le retrouver. Ça, c'est une bonne chose qui me plaît dans l'anthroposophie. Ça, c'est une bonne chose qu'on peut éduquer, qu'on peut dire à nos enfants. Ça, c'est une bonne chose. Ça, je ne connais pas, je ne touche pas. J'ai toujours dit aux gens, aux enfants, c'est vrai qu'à Dakar, au lieu d'apprendre, c'est bien, de connaître, moi, pour ma culture personnelle, de connaître les mythes celtiques qui existaient et tout, les Atlantides et tout ce qui s'est passé. Mais pour nos enfants de l'Afrique, il faut d'abord qu'ils commencent à savoir en Pateba, la création du monde, comment c'était autrefois. Et donc, nous avons nos mythologies africaines qu'il faut développer plus que d'autres. Donc, tout en étant dans la pédagogie Waldorf, nous avons nos exemples, nous avons nos mythes, nous avons nos légendes et nos contes. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut qu'on soit prêt à écouter les autres. Et si tout le monde dans ce monde entier, on regardait ce qui nous rapproche, plutôt que ce qui nous différencie, on serait dans un monde heureux.
Oui, beaucoup mieux, je pense.
Beaucoup mieux.
Oui, n'est-ce pas? Justement, actuellement, oh là là, avec toutes les crises sur Terre, dans ce monde, c'est pas facile toujours, je trouve. C'est pas évident. Mais ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Donc, moi, ces bases, je veux toujours voir qu'est-ce qui nous est, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut partager.
Voilà.
Et tout ce qui est sujet de différence. On n'en parle pas. Ça fait bientôt 40 années, plus de mariage. J'ai jamais eu une contradiction avec ma femme.
Waouh, ça c'est impressionnant.
Jamais. D'ailleurs, les enfants, ils le disent. Et ils me disent, toi et ma mère, on dirait que vous êtes frères et sœurs. D'ailleurs, les enfants, ils disent, attention.
Ouais.
Parce que j'ai dit, vous savez comment, je suis réussi, comment j'ai réussi? On ne parle jamais de quelque chose qui nous contradit.
Ah.
Au niveau politique, tu fais ce que tu veux. Ne parlons pas de ça. Quand on est chez nous, on parle de nous.
Oui,
on parle de ce qui peut nous rendre heureux.
Oui.
Tout ce qui peut faire de la différence. Non, je préfère qu'on
on
en
laisse
parle
du côté.
Pas.
Oui.
Laisse de côté. Et puis c'est fini.
Mm-hmm. Et ça a fonctionné.
Et ça a fonctionné. Ah, jamais de trucs. Ah, non, non, non. Écoute ça, si tu en parles, si tu parles de ma famille, je vais me... Ça peut me toucher. Si je parle de ta famille, ça peut te toucher. N'en parlons pas. Parlons de nous deux.
Évitons. Ouais, c'est ça. Je comprends. Oui, je vois. Je
ouais,
vois
donc,
oui.
C'est bien qu'on cherche ce qui nous rapproche et comment
Absolument.
Faire évoluer les choses.
Oui. Et on a tellement de choses en commun.
Oui, on a tellement de choses en commun.
Nous sommes des êtres humains. On a les mêmes.
Un de mes meilleurs amis, c'est Abbé Jean-Pierre. C'est un...
Un religieux?
Oui, c'est un Abbé, religieux.
Ouais.
Il a les 27 curés de Saint-Menou et aux alentours.
Oh.
C'est un Sénégalais qui est venu là-bas parce que la France est un peu en manque de curés.
Oui.
Alors, un jour, il est venu, on a mangé du couscous sous le préau. Une dame qui était venue allumer ses cierges passe par lui. Il appelle. « Mon père, je peux te parler ?» Il se met à côté. « Tu sais qu'après, il était musulman ?» Abel lui dit, alors
voilà.
Mais Abdoulaye, c'est avant tout mon frère.
Oui. Ah,
et maintenant, personne n'en parle plus.
Fin d'histoire.
Fin de...
Oui, oui.
Truc.
Oui.
Tu vois, parce que d'abord, se connaître, essayer de se parfaire, et en même temps, parfaire la nature de l'homme, et beaucoup de tolérance, ça pourrait approcher.
Oui, absolument.
Et mais dès l'instant que chacun se met dans son coin, on ne pourra jamais s'entendre.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
Oui, c'est beau. Et je crois que c'est aussi des bonnes paroles pour la fin de cet épisode, parce que je regarde et
oui,
le temps a beaucoup avancé. Est-ce qu'il y a quelque chose pour finir que tu souhaites encore partager ou dont tu voudrais parler, qu'on a loupé maintenant
Non, c'est juste
chose...
que la situation du monde, que vraiment les gens... essayer de sauver ce monde, qu'il y ait un monde de paix, que les gens essaient de se retrouver, qu'il y ait beaucoup de tolérance, parce qu'on stigmatise beaucoup de choses, et essayer de trouver une solution commune pour que vraiment la Terre soit sauvée. Donc ça, c'est très important pour moi.
Oui.
Oui. C'est vrai qu'on a beau parler de développement durable,
oui,
avec tous ces objectifs. C'est très beau. Mais si, par exemple, nous, Africains, on a pris beaucoup de nos terres, il n'y a plus, par exemple, dans nos pays, il y a très peu maintenant de terres arables. La mer a été pillée par des produits toxiques, le ciel, les rivières et tout. Et on parle toujours, on fait des politiques à l'extérieur pour parler de développement durable. Pourquoi ne pas demander à ces personnes de retourner, de laisser ces terres pour vraiment atteindre ces objectifs?
Ouais, ouais. Ah oui,
yeah.
Ça c'est vrai.
On n'a plus de terres. On a, par exemple, lorsqu'on exploite l'or, il y a le mercure, tout ça qu'on jette dans les terres. Quand on va exploiter les gaz, l'uranium, tu vas au Niger, tu trouves des montagnes de déchets toxiques.
C'est horrible, ouais.
Et c'est horrible. Et on parle toujours que le développement durable, quand on parle de ça, les ODD, tout ça, il faut vraiment l'Afrique. Mais qui a pollué l'Afrique?
Ouais, ben ça c'est... Oui.
Je laisse la question là.
Oui.
Voilà.
Je pense qu'on est bien d'accord à propos de cela.
Ouais. Ça dérange, mais je pense que la politique devait aller plutôt
Absolument,
vers
ça. Absolument, oui. C'est important. Mais voilà. espérons ou gardons d'espoir que
il y aura une certaine justice. Il y a tellement de politiques pour l'Afrique, pour les pays sous-développés. Il faut les aider, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils soient, qu'ils aient de l'eau. Mais si on épuise tous nos ressources naturelles et mettre des choses artificielles à la place et parler aussi de développer l'Afrique.
Oui. Si vous prenez tout, qu'est-ce que vous voulez qu'il reste?
Le Niger est un des pays les plus pauvres du monde. Ouais. Si vous allez là-bas, vous allez être désolé pour voir ces montagnes de déchets toxiques, tout ça, pour prendre tout simplement l'uranium pour en faire des centrales électriques ou des choses.
Ouais, bah oui.
Alors que les Nigériens meurent, on dit, oui, il faut aider le Niger.
Oh, c'est absurde,
Et ce que je l'ai dit l'autre jour à la conférence, oui, il faudrait avoir des trucs, le solaire et tout. Si on détruit l'ozone, si on détruit toutes ces choses pour dire que oui, il faut aider l'Afrique, alors que c'est les gens qui financent, qui aident, qui participent à la destruction du monde.
Exactement, c'est absurde.
Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions.
Oui, bah, je te remercie de toute façon. Eh bien, donc, un très grand merci à toi pour ton temps et pour ta disponibilité et le grand partage de connaissances et de sagesse que tu as partagé avec nous.
Ma fille, elle m'a posé les mêmes questions. Je lui ai dit que je ne te réponds pas. Parce que, comment tu as imaginé toutes ces questions, ton enfance? Parce que c'est la dernière née. Elle est ici en Allemagne. Et on s'est retrouvé à Kassel.
Oui.
Elle dit, papa, je veux t'interroger aujourd'hui sur ton enfance, sur ton truc, sur l'école. Je dis que non. J'ai ouvert mon poste, je dis que, tu vois, c'est ces questions qu'on va me poser. Comment tu t'es imaginé? Dis non, c'est ce que je viens d'y penser. Je n'ai jamais eu le temps de te poser des questions sur ton enfance, sur ton éducation.
Ah,
ma dernière fille née.
Oui.
Et alors, je dis, bon, écoute, après, je te répondrai.
Oui. On peut partager le lien et elle peut écouter ça aussi si elle souhaite.
C'est bien. Merci
beaucoup. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Un grand merci à toi.
Non.
Et voilà. Super. C'était donc l'épisode en français, une première ici au podcast. C'est la première fois qu'on fait quelque chose en langue étrangère.
Ah oui.
D'habitude, c'est toujours en allemand. Mais voilà, je pense que c'était un très, très beau début. Donc, un grand merci à toi.
C'était un grand
cadeau que tu as partagé avec nous.
Merci.
Et voilà, je reste à dire au revoir.
Oui, merci.
Aussi aux personnes qui nous écoutent. Et on va dire à la prochaine.